Je suis Arnold Pasquier, j'enseigne à l'école d'architecture de Paris-Belleville. L'école d'architecture de Paris-Belleville se trouve sur le boulevard de la Villette, au numéro 60, si je ne me trompe pas. C'est une ancienne école professionnelle qui, il y a une dizaine d'années, a été rénovée et dans laquelle s'est installée, après des grands travaux de reconfiguration, de destruction et de construction, l'école d'architecture qui s'est déployée sur de nombreux hectares et principalement pour pouvoir loger les studios d'architecture. Je suis enseignant de vidéo à mi-temps. Donc je fais partie d'un ensemble de propositions pédagogiques qu'on appelle les ATR, donc qui sont les enseignements arts plastiques, qui rassemblent sculpture, dessin, photographie et vidéo. Un atelier de vidéo qui se propose de faire se rencontrer le vocabulaire et le langage du cinéma au regard de l'architecture. Je suis réalisateur. Donc voilà, je mène un travail depuis bientôt 30 ans qui regarde différents genres, que ce soit le cinéma expérimental, la fiction, le documentaire. Je m'intéresse de façon assez marquée à la question de l'espace, de la ville, de l'architecture, ce qui m'a amené donc à développer un certain nombre de films, à réaliser un certain nombre de films qui mettent en relation décor dans l'espace. Et cet espace, voilà, qui est de plus en plus informé, disons, par la question de l'architecture. Il y a des architectes dans mes fictions. Voilà, on travaille sur la question, voilà, de la ville, de l'urbanisme. Ceci étant parallèlement lié à un intérêt que j'ai porté de façon plus ancienne encore à la question du corps à travers la danse contemporaine. La danse étant une autre façon, bien sûr, d'occuper l'espace. Donc c'est voilà, c'est ce qui motive, disons, un peu le mouvement principal de mon travail de cinéma. Alors donc, la question du son, elle a été peut-être longtemps, voire même encore sans doute peut-être régulièrement, un peu un parent pauvre, disons, de mon cinéma, dans la mesure où j'ai beaucoup autoproduit mes films et où je n'avais pas forcément les moyens d'envisager la question de la prise en compte du son de bonne qualité, avec du bon matériel. J'ai souvent filmé seul, donc je ne pouvais pas forcément faire des prises de son en direct. Donc le son est souvent intervenu dans certains de mes films dans un deuxième temps, dans des mixages assez élaborés, parfois même des recréations complètes de certains sons. Voilà, notamment un film que j'ai tourné en 95 où et pourtant, d'ailleurs, il y avait un ingénieur du son, mais en fait, il s'est complètement trompé sur les enregistrements. Donc, du coup, on a tout refait en post-production. Donc, le son a été voilà, un peu mis de côté. Mais parallèlement, j'ai pu aussi mener un travail de réalisation de fiction, et plutôt de documentaire, d'ailleurs. Plutôt des documentaires dans le cadre d'un atelier de création radiophonique qui a eu ses heures de gloire sur France Culture, qui est maintenant achevé, enfin terminé, l'émission n'existe plus, où j'ai réalisé une petite dizaine de documentaires. Donc là, vraiment, pour le coup, c'était vraiment du son, que du son, qui retravaillait d'ailleurs les mêmes questions qui pouvaient m'intéresser par ailleurs dans mon travail de cinéma, mais appliquées au son, donc des entretiens. Du montage son, surtout qu'à l'époque, les ateliers de création radiophonique étaient une forme assez luxueuse à l'intérieur de la radio. Il y avait vraiment du temps pour concevoir, monter, mixer les films. Donc voilà, j'ai eu néanmoins, malgré si j'ai pu pâtir sans doute de problèmes de production d'une certaine façon pour certains de mes films, qui mettaient un peu de côté la question du son, j'ai pu l'aborder de façon voilà, plus complète, plus entière dans ces émissions de radio. Et par ailleurs, voilà, c'est une question forcément, voilà, j'ai fait un certain nombre de films, c'est quand même une question qui me travaille aujourd'hui, et je ne peux pas dire que je n'y pense pas. C'est-à-dire même, par exemple, le dernier film que j'ai fait, que j'ai tourné au Brésil, autour d'un site architectural à Salvador de Bahia, un film que j'ai tourné pour des raisons de production et un peu de discrétion avec un appareil photo, un petit appareil photo, donc autant dire qu'il n'y avait pas de son. La bande son, je l'ai entièrement reconstituée en utilisant une banque sonore de très bonne qualité qui avait été elle-même réalisée en Italie, en Sicile et à Naples, et par un ingénieur du son. Et je travaillais l'espèce de continuité, discontinuité entre ces deux paysages, entre le paysage du Brésil et le paysage sonore italien, voilà, en essayant de définir une caractéristique et des points de rencontre un peu voilà, poétiques entre ces deux espaces, l'espace visuel du Brésil et l'espace sonore de l'Italie. Donc voilà, même aujourd'hui, dans des cas de production, enfin d'autoproduction sans un sou, je pense à la question du son. On est dans un espace urbain assez classique, un boulevard assez large, qui fait quasiment tout le tour de Paris, on peut le dire, oui. Et donc voilà, quand on est boulevard de la Villette, quand on traverse le quartier de Belleville pour arriver dans cet espace qui est plus calme, parce qu'en fait il se trouve finalement entre le carrefour de Belleville et le carrefour de la place du Colonel Fabien, on est dans un endroit voilà, légèrement plus calme, si on peut dire. Il y a quand même le tampon vert des rangées d'arbres entre les deux alignements de façade. Bon. Mais néanmoins, malgré tout, même si c'est des voies uniques, il y a un passage de voiture. Donc on est dans une ambiance sonore assez classique, parisien. Je pense que si on prête un peu l'oreille, voilà, on entend des voix de certaines communautés plutôt asiatiques. Il y a des pigeons, mais il y a sur les caddies du supermarché en face, les livreurs en moto qui viennent apporter les sandwichs à midi. Bon, voilà, tout ça, je veux dire, on peut, si on prête l'oreille, forcément peut-être qu'on peut retrouver quelques caractéristiques, mais c'est quelque chose, je pense, qui se déploie dans tous les quartiers de la ville, hein, dans le 15e. Dans le 17e, dans le 12e, il n'y a pas de. C'est pas très très original. Après, il y a une spécificité de ce bâtiment, mais qui est finalement assez propre à de nombreux bâtiments parisiens d'une certaine ampleur, c'est-à-dire qu'il y a une façade sur rue, à ceci près qu'ici, il y a un décroché, il y a une sorte de cour intérieure fermée par une grille, donc on ne peut pas y accéder directement, il y a une porte d'une certaine façon, mais il y a cette espèce de petites places, de placettes, voilà, qui est un premier sas avant d'entrer dans le bâtiment, qui déjà, bon, je pense que la qualité du son, elle ne change pas énormément, mais on a déjà une proposition spatiale différente entre la rue et cette petite cour. Et ensuite, après, donc, on a des portes vitrées qui nous permettent d'accéder assez rapidement en fait, au cœur de l'école. Et l'école, comme je le disais précédemment, elle est constituée d'un ensemble de bâtiments anciens et nouveaux. Et notamment, donc, ce bâtiment sur rue, c'est un bâtiment du début du 20e, je pense, en briques assez classique. C'est un peu l'esthétique Jules Ferry, là, comme on disait, voilà, avec son cartouche qui doit annoncer que c'est une école technique. Et très vite, en fait, on rentre dans des espaces d'exposition, et puis en prenant, en fonction de l'escalier qu'on prend, soit on accède à des couloirs qui desservent les salles, soit on peut assez rapidement accéder à un jardin, à une cour intérieure. Mais avant d'aller dans le jardin, je voudrais peut-être parler justement de l'expérience sonore que l'on peut faire dans le bâtiment, qui est un bâtiment récent, donc il y a une dizaine d'années, et qui s'est intéressé aux ouvertures, aux perspectives, aux grandes traversées. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans un bâtiment classique, on pourrait dire après un hall, en fait on rentre dans des couloirs, il y a peu de fenêtres, ça donne accès à des salles de classe, finalement une sorte d'orthonométrie ou de rapport de salles très, très classiques, alignées autour d'un couloir. Là, en fait, on a des très, très grandes ouvertures, et notamment, quand on arrive par la droite dans l'école, après l'accueil, et en fait, on est assez vite attiré par l'accueil si on est invité. Et en fait, on a accès à ce grand couloir qui est ouvert sur toute la hauteur du bâtiment, c'est-à-dire que donc, il y a trois étages comme ça qui s'ouvrent, avec des volets d'escalier qui permettent d'accéder aux derniers étages. Et là, on a une expérience sonore quand même assez originale, c'est-à-dire que ça résonne pas mal. C'est-à-dire que si les gens parlent au rez-de-chaussée, voire même au sous-sol, puisqu'en fait, à cet endroit-là, on est au niveau de la rue, mais on se trouve à être au sous-sol par rapport au jardin qui se trouve dans le cœur de l'îlot de l'école. Et quand on est là, en fait, au troisième étage, on entend les gens parler au premier. C'est-à-dire qu'on a, ça résonne, c'est des parois vitrées qui donnent côté jardin, qui est du métal. Tout ça, c'est travaillé par des parois en bois sur le côté droit qui longe tous les amphithéâtres. Mais enfin, néanmoins, c'est un espace résonant. Et là, on est dans un espace sonore plutôt un peu métallique, comme ça, qui réverbère et qui produit du coup un espace, un environnement sonore qui est assez inattendu, je pense, dans ce type d'équipement. Enfin, encore une fois, les écoles d'architecture, elles sont souvent dessinées aujourd'hui, les dernières. Voilà, on n'est pas aux beaux-arts, quoi. Et alors, l'autre caractéristique, voilà, qui amène à une autre qualité, on pourrait dire, sonore, donc c'est ce jardin qui se trouve être donc enclos à l'intérieur de quatre bâtiments. Il y a le bâtiment ancien qui fait face à la rue, enfin, face au boulevard. Les trois autres côtés sont des bâtiments récents, enfin, qui remplacent des bâtiments existants, mais donc qui sont très, très vitrés. Donc on voit beaucoup à travers, d'un côté, les salles d'atelier, les salles de studio, au fond la cafétéria, au-dessus la bibliothèque, et puis sur la droite, donc ce que j'évoquais, là, la volée d'escalier qui dessert toutes les salles d'amphithéâtre, les salles de cours. Et là, on est dans un endroit très, très curieux, qui n'est sans doute pas si rare que ça à Paris, mais finalement, on ne s'en rend pas compte parce qu'on longe des façades qui sont finalement plutôt haussmanniennes, réglées un peu sur la même mode des natures, ou même quand c'est des bâtiments plus récents, finalement, ils se sont alignés, on pourrait dire, à la fois sur la rue et aussi sur la grammaire architecturale héritée de la fin du 19e. Et donc on a ce jardin, un jardin avec il y a 4 ou 5 arbres qui est ouvert sur laquelle s'ouvre la cafétéria. Donc il y a des étudiants qui sont dehors au beau temps, même quand il fait pas beau, pour fumer des cigarettes. Et là donc on est dans un espace de nature, alors une nature évidemment très 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 recomposée, mais les arbres sont assez anciens. Il y en a un qui est découpé, mais il y a deux arbres. Je crois qu'il devait y avoir un marronnier ou peut-être un platane, enfin bon, c'est qui ont bien une trentaine, quarantaine d'années, qui étaient là avant du temps de l'ancienne école, et ça crée, alors là pour le coup, vraiment un espace sonore différent, de la même façon un peu réverbéré du fait de son aspect de cour, mais qui produit en tout cas, voilà, à la belle saison, à la fois la présence évidemment d'animaux, d'oiseaux, mais aussi une sorte de babil des étudiants qui sont là. C'est vraiment un lieu qui est très, très investi, d'autant plus qu'il y a eu une petite rénovation pour des raisons de sécurité. Et ils ont installé des sortes d'esplanades qui ont un peu réduit la superficie du jardin, mais qui permettent aux étudiants de s'installer, de pique-niquer, par exemple. Il se trouve que je l'ai rencontré parce qu'en effet, donc ce 1%, enfin cette œuvre architecturale a été donc installée, composée, construite à l'ouverture de l'école, donc lors de sa rénovation. Et c'est un projet assez particulier, assez ambitieux. Il émane d'un artiste plasticien, musicien, qui fait, si je me rappelle bien, tout un travail de recherche autour de l'utilisation de flûtes traditionnelles en Italie. Des flûtes qui créent une sorte de sonorité un peu de bourdon, en fait, et qui sont peut-être des flûtes qui sont plus là pour accompagner des chants. Et en fait, il y a plusieurs flûtes qui sont assemblées entre elles. Je pense qu'elles peuvent être composées de roseaux. C'est vraiment un matériel plutôt comme ça, traditionnel de la musique populaire italienne. Et donc, cet artiste s'intéresse depuis longtemps à cette composition, et il a proposé, en fait, dans l'espace de l'école, une transcription, une partition, en fait, qui se déploie depuis la cour d'accueil jusque, en fait, dans ce qu'on appelle la cour Burnouf, qui se trouve une des troisième cours qui se trouve au fond de l'îlot. Et c'est un dessin composé de losanges, de trapèzes, de formes géométriques qui s'assemblent les unes aux autres et qui composent comme ça, comme une sorte de constellation. On dirait presque une sorte de dessin de grand ours comme ça, qui serait développé à l'échelle de l'ensemble de la, du territoire de l'école, et qui est en fait la transcription de la partition de cette musique particulière, en sachant que dans la petite dans une des salles d'exposition qui s'appelle la mezzanine basse, en fait, sur le sol, il y a un réseau de ces mêmes dessins géométriques qui sont ponctués de petites ouvertures fermées par des clapets qu'on peut ouvrir, dans lesquelles on peut planter en fait des tiges métalliques sur lesquelles on peut ajouter des petits sifflets, là, des hanches. Et en soufflant dans ces hanches, et en fait, on crée un réseau sonore en fait qui se déploie dans toute la mezzanine. Il y avait à l'époque de l'installation, de la construction de cette installation, il y avait une armoire dans laquelle il y avait les hanches qui permettaient donc d'activer cette installation sonore. Et elle a été réactivée, remise en jeu, notamment pour la fête des 50 ans de l'école, où l'artiste est venu et il a joué à nouveau la partition, une partition avec des étudiants qui s'étaient associés. Et donc, il se trouve que j'ai filmé, moi, le premier, pas les 50 ans de l'école, parce que je n'étais pas à l'école ce jour-là, mais la présentation par cet artiste, donc par Aubry, de son installation, et la façon dont on pouvait utiliser les différents tubes pour activer la partition sonore. Voilà. Et pour finir, il y a ce dessin géométrique comme ça, enfin, ça se voit dans le jardin. C'est une partie qui n'occupe que le jardin, mais les dalles, donc, qui sont des dalles en béton, sont en fait incluses ou inclus sur leur surface des matériaux. Alors ça peut être des bouchons en plastique, des vis, des différents objets comme ça, enfin de rebuts qui ont été collectés pendant les travaux de démolition de bâtiments pendant les travaux, qui ont été mis dans les containers. Et en fait, c'est une sorte de sélection de tous les rebuts qui ont été produits par le chantier et qui sont ainsi exposés. Donc c'est aussi, parce que je veux dire, si on ne sait pas, on ne s'en rend pas compte, mais c'est aussi, c'est pas juste un dessin un peu comme ça de motif coloré ou géométrique qui est inclus dans le béton. C'est la mémoire de ce que le chantier a produit comme déchet qui est ainsi réemployé et qui crée ce dessin à l'intérieur du motif comme ça qui se déploie dans le jardin. Les sons que j'aime, ça peut être par exemple le son du tramway qui arrive à Milan, par exemple. Mais c'est parce que j'aime les tramways. Donc, sans doute que le son du tramway, il a une certaine qualité, voilà, de crissement, de rapport du métal sur les rails. Donc voilà, un tramway qui arriverait en station à Milan. Je sais que j'aime le son des gares en Italie. Alors tout ça, ça va être un peu peut-être lié à l'Italie, mais il faudrait que l'Italie est pour moi, c'est mon plus gros défaut. Mais l'Italie est sans doute pour moi un lieu de présence, quoi, de choses auxquelles je me rattache et qui font sens et dont je peux avoir une certaine forme de nostalgie. Mais les gares italiennes, par exemple, la gare de Naples ou la gare de Rome, avec toutes les annonces, par exemple les annonces très spécifiques qui vraiment me font sourire, c'est-à-dire que entendre le chef de gare, c'est plus le chef de gare, parce que maintenant c'est plutôt des enregistrements, mais en tout cas la voix masculine ou féminine qui annonce que le train de 20h30 part pour Naples et qui égrène les stations, pour moi c'est très fort. Et de même quand je suis dans le train, c'est-à-dire que les annonces et les désannonces dans le train en Italie, alors autant elles peuvent me gêner en France parce que ça m'empêche de lire ou de penser à autre chose, autant en Italie c'est une vraie musique, par exemple. Bon, je vais rester en Italie, le bruit d'un café italien typique où les gens boivent leur café au comptoir, s'expriment, pas forcément de façon très, très forte, mais souvent de façon assez volubile, comme ça, où il y a le percolateur ou la machine à espresso qui marche. C'est quelque chose, je crois, voilà, qui fait partie aussi, par exemple, des sons qui sont pour moi importants. Donc voilà, oui, la machine à café, faire le café en Italie. Peut-être que j'ai un vrai goût pour l'absence de son dans les musées vides, ce qu'ils le sont de moins en moins, mais hier sauf que j'étais au musée d'Orsay, et donc ils ferment les salles 30 minutes avant la fin de les salauds, 30 minutes avant la fermeture du musée, et il y a quelque chose qui se passe. Donc évidemment, comme c'est, les musées sont remplis de touristes, les touristes ils sont hyper disciplinés, à part ceux qui ne comprennent pas les 8 langues dans lesquelles ils annoncent que le musée est en train de fermer. Mais donc il y a quelque chose, oui, mais c'est aussi lié à un peu la fatigue de la visite, c'est la fin de la journée, et puis il y a une déambulation un peu à la fois pressée et molle, des gens qui sont là, qui regardent les œuvres un peu, qui arrachent leur regard comme ça, d'une toile impressionniste qu'ils ont vue sur une boîte de chocolat et qui sont tellement heureux de redécouvrir. Donc oui, peut-être voilà l'ambiance d'un musée au moment où il va fermer. Faire partie des sons que j'apprécie. Donc, par exemple, je déteste les voix de tête américaine hyper fortes, hyper, hyper éclatantes, par exemple, qu'on peut entendre, évidemment, quand on est aux États-Unis, mais par exemple, un groupe de femmes dans un restaurant, c'est un truc à vous casser les oreilles, les pauvres. Je leur veux pas. Hein. Mais en fait, elles ont un niveau... Alors du coup, on les entend, même en plein tremblement de terre, on les entendrait, je veux dire. C'est tellement sonore, percutant, comme ça. Et on les repère dans le métro à Paris, hein, je veux dire, où comme ça, c'est une puissance. Et ça, par exemple, c'est un son qui, moi qui suis plutôt... Enfin, j'ai une préférence pour les voix un peu chuchotées, un peu portugaises, quoi. Les voix qui parlent comme ça, on n'entend rien, c'est super. Et donc voilà, donc ça, c'est peut-être un son qui m'agresse. Excusez-moi, mesdames. Les sons que je n'aime pas... Bon, aujourd'hui, les sons qui vraiment me hérissent, c'est tous les sons de téléphone qui tintinabulent de moins en moins, hein, mais dans le train, par exemple. Et ces sonneries de gens qui n'ont pas compris que les téléphones, depuis leur création, ont un mode vibreur et qu'on peut tout à fait être alerté par une conversation importante. Voilà. Et même parfois, je me dis, mais comment c'est pas possible que les gens ils gardent même les sonneries du Nokia ou du Samsung pourri, alors qu'il y a 23 sonneries qui sont proposées, et ils choisissent, ils prennent la première, la pire, quoi. Et après, on a cette espèce de tintinabulie dans sa tête pour la journée. Bah, il y a forcément la voix chère des gens qui ne sont plus. Donc c'est des voix. Ce sont sans doute des voix qui... Est-ce qu'elles me manquent ? C'est la question du manque, là. Mais en tout cas, je peux... avoir une forme de regret ou de nostalgie, en effet, de ne plus entendre certaines voix de personnes qui ont disparu, et peut-être même de me dire que je n'entendrai pas la transformation de leur voix. Car, on le sait aussi par les documentaires, ou parce qu'on retombe de temps en temps, quand je parle de documentaires, je veux dire d'artistes dont on aime le travail et dont on peut entendre la voix quand ils sont plus jeunes, et puis entendre la voix aujourd'hui. Je ne sais pas, moi, Soulage, par exemple, aujourd'hui, qui a 100 ans, il n'a pas la même voix que quand il avait 50 ans. Donc je peux aussi avoir le regret de voix que je n'entendrai pas vieillir avec moi, par exemple, et qui restent dans leur jeunesse ou dans leur lointain.